Et Zépoc aussi. Ouais. Manquez pas ça, il s'installe là.
Leclerc Communication vous rappelle que tout ce qui passe mode revient inévitablement au goût du jour. Le disco avec Daft Punk. Karate Kid avec Cobra Kai.
All right, you ready to begin your training?
Yeah, sensei.
What the? Oh!
Lesson one, strike first. Mercy is for the weak.
Le pop-punk avec le revival de Blink 182. Puis même les coupes longueuil puis les permanentes.
Jeff qui me dit, là, moi, je m'en vais me faire faire une permanente.
OK.
Puis je vois que Nathan a une permanente.
J'ai pas de permanente, moi. Hey, c'est mes cheveux à moi, ça.
OK.
Ça frise de même, moi.
C'est tout à ton nom.
C'est tout à moi, ça.
Boulevard 102. Le retour de la force de la radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur les noms des ondes de Boulevard 102 à Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer une excellente soirée ensemble puisque ce soir, pendant une heure, j'ai le plaisir de parler avec l'homme d'affaires Tony Thanos que je connais déjà depuis quelques années. Je l'avais rencontré dans une autre vie radio puis il a accepté de venir faire un podcast avec nous autres. Salut Tony!
Salut Yann, ça va?
Comment ça va toi?
Ça va top shape, ça
moi
va
moi aussi, ça va super bien. Écoute, ça fait des années que je fréquente tes établissements, la galette libanaise. J'ai toujours trippé sur ton produit, toujours aimé ben ton staff qui est tout le temps présent pour les clients, puis tout le temps tout sourire. Fait que ça me fait plaisir de parler de ton entreprise, mais aussi des divers enjeux que guettent que les hommes d'affaires, ainsi que les problématiques que vous pouvez avoir des fois avec la Ville de Québec sur certains points. Donc Tony, on part pour un 60 minutes, t'es-tu prêt?
Ah oui, je suis content qu'on ait du temps.
Ça fait combien de temps que t'es à Québec? T'es-tu né ici, toi?
Nous, on est natifs de Québec. Mes deux parents, c'est des... Ben, mon père, il est arrivé en premier.
Ouais, en quelle année?
76, c'était pendant la guerre civile du Liban.
Donc, des années 70.
Ouais, okay. Milieu 70. Il a quitté le Liban, il est arrivé ici. C'était un peu, tu sais, dans le temps, ils ont ouvert les portes pour amener de la main-d'œuvre extérieure ou peu importe.
Ouais.
Il s'est ramassé à Bay James, il a été cuisinier au pâtissier là-bas, je ne sais pas trop ce qu'il a fait là-bas.
C'était-tu un homme d'affaires au Liban?
Non, il travaillait dans les hôtels, il était pâtissier.
Ouais.
Puis quand il a quitté là-bas puis il est arrivé ici, ben, tu sais, il est allé à Bay James, il n'a pas trippé. Il y a fameux, tu sais, t'arrives d'un pays qui est plus chaud, puis t'arrives dans une place qu'il fait froid, mais tu t'en vas dans le nord complètement, qui fait vraiment froid. Puis je pense qu'il a pogné la grosse tempête, là, qu'il était pogné chez eux pendant une couple de jours.
Ouais.
Mais anyway, fait qu'après ça, quand il est revenu à Québec, il est allé au Hilton, il a travaillé là pendant un bout de temps, il a ouvert sa première petite pâtisserie.
OK.
En 78, 77.
C'était-tu facile pour les Libanais dans le temps d'arriver au Québec dans les années 70? Là? Les gens étaient-tu ouverts à l'accueil des immigrants?
Hey, c'est une drôle de question, mais il n'y avait pas beaucoup. Tu sais, on était nous autres là, à l'école. Là, je me rappelle que je m'étais déjà fait punir parce qu'on parlait. Tu sais, nous autres, on était quand même 37 Thanos là, au total.
Ouais.
On était... tu prends une rue à l'autre, on habitait tous dans le même coin, fait qu'on allait tous à la même école. Puis les professeurs, ils capotaient des fois parce que tu sais, nous autres, on parlait français, anglais, libanais. C'était comme tout pêle-mêle dans la même phrase.
Ce qui était tout à fait normal, soit dit en passant. Ouais.
Ma mère. Elle était en Syrie au départ.
Okay.
Elle a déménagé à Détroit. Toute la famille à ma mère est encore à Détroit aujourd'hui. Elle est venue rejoindre mon père pour se marier et fonder la famille ici.
Okay.
Mais au départ, on est les premiers de notre génération.
Mais,
qui est
mais
au
ton
Québec.
Père t'a jamais parlé de son intégration au Québec? Parce que moi, je me souviens que dans les années 80, où j'habitais dans le secteur de Saint-Roch, on avait un quartier chinois. Je ne sais pas si tu te souviens où il était. C'était sur Saint-Vallier. C'était carrément dans la langue Saint-Vallier-Saint-Joseph. Là. C'était un quartier chinois. Il y avait plein de restaurants chinois. Il y avait des épiceries chinoises. Il y avait le fameux petit dépanneur
on
chinois.
On connaît le tabac.
ça s'appelait-tu « On connaît le tabac »
Peut-être qu'il y avait
c'était juste à côté de Joe Dion. Là. C'était pas loin de ça, de mémoire. Puis il y avait quand même une belle intégration avec les Chinois. J'ai eu un beau-père, moi, Yahya Helrifai, qui a fait partie de ma vie pendant des années, que j'ai adoré, qui venait du Liban. Puis lui, l'intégration, c'était pas facile parce qu'il parlait vraiment pas français quand il est arrivé. Ça a été vraiment difficile.
Mon père, je te dirais que, point de vue, ben, c'est bizarre à dire, là, mais je pense pas qu'il y ait eu de la misère parce qu'il a offert un produit qui n'existait pratiquement pas. Lui, quand il est arrivé, il a fait ses premières pâtisseries et tout, ben, ça a roulé super bien. sais, lui, il travaillait là, il faisait ses affaires. Puis,
Les gens goûtaient à ça, ils étaient curieux. Ça. Ils disaient, coudonc, qui fait ça? Puis finalement, ton père a fait sa renommée comme ça.
Oui, ben, tu sais, okay. Il y avait les deux familles. Il y avait Thanos et Nourcy. On salue la famille Nourcy aussi. Mais tu sais, c'est comme. C'était son plus grand compétiteur qui est décédé en 96, je pense, 95, peu importe. Mais tu sais, son plus grand compétiteur est un de ses meilleurs amis. Là. Mais bon, tout ça pour dire que quand ils faisaient leur truc, il y avait toutes les deux des olives, mettons. Ils vendaient des olives au comptoir de la pâtisserie, des fromages au lait cru, des choses qu'on vendait là. Ça n'existait pratiquement pas ici. Ils n'avaient pas au IGA. Des terrines, on n'avait pas ça. C'était ma mère et mon père qui allaient à tour de rôle chercher ça dans le coin de Repentigny.
OK.
Chercher, parce qu'à part l'épicerie européenne qui faisait à peu près la même affaire, c'est une autre personne que mon père connaissait à l'époque. Ouais. Mais tu sais, la communauté, on va appeler ça la communauté étrangère, était assez étroite, là, il n'y avait pas tant que ça.
Fait que ta famille travaillait déjà très fort. Toi, quand t'es né, t'as-tu commencé à intégrer les business de ta famille?
Ouais, ben tu nous autres, je te dirais que je suis... Nous, les quatre enfants du côté de la pâtisserie de Nintendo, on est quasiment nés dans la pâtisserie. Là, ouais. Dire, ma mère a... Moi, j'étais en janvier, là, à Noël, elle était enceinte de 8 mois, puis elle travaillait là, puis elle vendait des bûches, puis elle emballait du pain.
C'est quasiment un danger pour un enfant de mettre dans une pâtisserie, là. Je veux dire, tu déjeunes une pâtisserie, tu dînes une pâtisserie, tu
soupes
pâtisserie.
Non, mais c'est ça qu'on mangeait là. Ben,
collation,
écoute, j'ai des souvenirs, puis on a des... C'est drôle parce qu'on en parlait avec ma soeur pendant les fêtes de se faire un petit album, parce que ma mère a sorti un paquet de vieilles photos.
Okay.
Puis mon père et ma mère, ils faisaient comme un parc enfant avec les poches de farine, puis ils nous mettaient là-dedans pour jouer. Parce que, tu sais, à un moment donné, nous autres, on... En bas âge, quand c'était le temps de Pâques ou le temps des fêtes, à 2-3 ans, il n'y a pas de gardienne, il n'y a rien. Ben, ils nous amenaient à la pâtisserie, puis nous autres, on jouait là, puis on gossait, puis on décorait, quand on était plus vieux en âge, on décorait les bûches, on mettait des crêtes de lait, là, les petites crêtes en plastique.
Uh-huh.
Puis moi et mon frère, on se levait là-dessus, puis on mettait les petits sapins, ces bûches, on mettait le sucre en poudre ou des choses de même. C'est ce qu'on faisait... Le cheap labor du temps.
Ouais,
fallait qu'on mérite nos cadeaux.
Mais c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, des fois, j'essaie. Tu sais, des fois, je dis à mon plus vieux, fais tes céréales, puis fais un bol pour ton frère. Puis là, c'est tout le temps moi qui fais quelque chose ici, là, mon lui. Tu sais, dans le temps, les plus vieux devaient aider les plus jeunes.
Oui, ouais.
Ça vous responsabilisait peut-être, ça nous responsabilisait peut-être un peu plus vite que nos enfants qu'on a là actuellement. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, toi, de partir en affaires?
Hey, moi, à base, quand j'ai. Ma première job, c'était bien entendu à la pâtisserie.
Ouais.
Ben, Camelot, mais ça compte pas. C'était...
Non.
C'était pas. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. Là. Mais anyway, après ça, à la pâtisserie, j'étais plongeur.
Okay.
Ben, moi, j'aimais pas ça. Comme ben du monde, mais tu sais, je vais tout le temps m'en rappeler. Je voulais avoir une augmentation, puis mes parents ne voulaient pas.
T'as demandé une augmentation au grand boss, puis le grand boss, c'était ton père, puis il a dit no way.
Exactement. Il dit non. Si tu veux gagner plus cher, il faut que tu fasses un poste qui est plus valorisé parce que ça, c'est le prix que ça vaut un plongeur. Fait que, okay. En voulant dire...
fait qu'il te montrait déjà c'était quoi le marché du travail à cette époque-là.
Ouais.
T'avais quel âge?
J'avais 14-15 ans. Okay, j'avais un scooter, là, en tout cas. Puis c'était le scooter qui coûtait cher de gaz à l'époque. Faut qu'on dirait qu'on se rend compte que ça coûte de l'argent.
OK, mais je pensais que t'avais 4-5 ans. Là. Je trouvais que ton père était zélé.
Non. Mais en bas âge.
14-15 ans.
C'était
okay.
Du plaisir plus que d'autres choses. Rendu à l'âge de travailler pour vrai, ben, ouais. Là, faut que tu aies des responsabilités pour vrai. Puis tu sais, quand t'es le fils du patron, il y a beaucoup de monde qui pense que tu rentres travailler, puis t'as une permission, t'arrives en retard, c'est pas grave. C'est pas ça chez nous.
Non.
C'est le service militaire. faut que tu sois ordonné en sacrement.
Mais en même temps, j'imagine qu'il voyait ça comme son legs, lui, de vous montrer à travailler. T'sais, il est arrivé ici, il l'a pas eu facile. Il est obligé de se monter par lui-même. Puis il vous a démontré que dans la vie, si tu travailles, tu vas récolter plus tard.
Définitivement. Ça, c'est sûr. Puis tu sais, d'après ça, moi, ce que j'ai fait, ben, à un moment donné, j'étais vraiment écœuré. Une journée, j'étais arrivé, là, puis la vaisselle, là, ça avait juste pas de sens. Là, les plaques, puis tout le kit, j'ai dit, OK, fuck off. Excusez-moi,
c'est fini.
Je suis allé voir mon père. Mon père et ma mère étaient encore dans le restaurant. Ils étaient assis à côté. Puis on avait la pâtisserie puis le resto à côté. Là.
Ouais.
Puis là, je dis, c'est qui? Je dis, c'est quel poste qui va être le plus payant, mettons? Elle me dit, la boulangerie. Parfait, je rentre en fin de semaine prochaine. Je vais commencer à apprendre la boulangerie. Fait que j'ai rentré puis j'ai commencé à apprendre la boulangerie. Okay. Puis c'est le même que je suis devenu boulanger de mes 15 ans jusqu'à mes... jusqu'à la fin de mes études.
Ouais. Je vais te demander de te rapprocher du micro. Fait que ton père a dit... ton père, c'est ça qu'il voulait. Là. Il voulait te voir progresser, mais il fallait que ça vienne de toi. Puis il voulait te montrer que si tu apprenais un autre métier qui avait peut-être une valeur en argent un peu plus élevée, ben il fallait que tu l'apprennes, tu recommences, puis là, tu allais gagner ce fameux salaire-là. C'est cool, ça!
Ben, c'est le mérite. C'est comme... tu peux pas... puis au même titre, mes employés que j'ai chez nous, ça fait 10 ans, il y en a une qui a commencé sa 10e année là, avec nous autres. Mais tu sais, moi, à chaque fois que quelqu'un vient me voir, il me dit « Hey, on parle de salaire ou quelque chose comme ça. Puis ça, pour n'importe qui, je pense que c'est valable. Là. Tu vas parler avec ton patron, peu importe. Tu dis, écoute, moi, je suis prêt à avoir plus de responsabilités.
Ouais.
En conséquence, d'avoir un meilleur salaire. Je pense pas qu'il y a grand monde qui vont dire non. Il y a tout le temps une manière de parler ou de négocier ou quelque chose comme ça. Puis ça, ben moi, quand j'ai commencé la pâtisserie, la boulangerie, excusez-moi, puis j'ai... excuse-moi, je vais mettre ça off. Quand j'ai fait ce step-là, ben j'ai acquis une expérience, j'ai acquis plein d'affaires. Puis j'ai commencé à prendre des... ça a donné en sorte que le département de la boulangerie, d'avoir un employé de plus à cette époque-là, on était capable de faire des produits de plus.
OK.
Fait qu'on offrait plus de ventes. Fait que oui, incessamment, ben tu sais... Le volume est meilleur, on vend plus de stock. Fait que, tu sais, le salaire, il est justifié. C'est rare que tu arrives à une place, que tu fais juste occuper un salaire, mais qu'il n'y a pas de retour sur investissement. C'était ça, le but, là. Fait que, tu sais, je dis pas que je gagnais 30$ à cette époque-là. Là. C'est le contraire. Le salaire minimum était à quoi? 6,15$, je pense. 5,85$, je pense. C'était ridicule. Fait que c'était juste d'avoir 25-30 de plus de l'heure et avoir quelques heures de plus.
Ah oui.
Parce que si tu rentres pour être plongeur et il n'y a pas de vaisselle,
t'es payé pareil.
Non, t'as pas d'heure, tu t'en vas.
OK, il te coupait.
Ben moi, oui. Si j'avais pas de travail à faire, je m'en allais. Mais okay. Tu sais, quand je suis arrivé dans la boulangerie...
Il y avait pas de norme du travail pour ses enfants.
Ben écoute, je pense que pour ça, ça s'applique pas. T'es cédulé pour... Tu rentres pour 3 heures,
ouais.
Mais s'il n'y a plus de vaisselle à faire, tu passes le balai, la mop, t'as ramassé tes affaires, t'as fait le ménage. Tu t'en vas après 3 heures,
c'est stock après, c'est ça, c'est 3 heures minimum. C'est ça.
Mais tu sais, moi, si je voulais faire 5 heures, ben, il ne peut pas me dire, ben là, tu vas t'assurer et tu fais rien pendant 2 heures. T'as pas le choix, rentre chez vous.
Il te coupait. Puis là, c'est quand est-ce que tu as décidé, toi, que tu allais te partir des restaurants?
Après mes études, j'ai été. Moi, j'ai fait un cours en électronique, puis en programmation, puis le kit. Là. Puis j'ai été. Pendant un long bout de temps, à programmer des caisses enregistreuses puis des ordinateurs pour les restaurants puis les hôtels puis tout ça. En 2011, j'ai quitté. En 2009, j'étais allé au Liban, excusez-moi, avant de quitter l'autre job. Puis j'avais vu un principe au Liban. Là. Ce qu'on fait là, les galettes libanaises, ça existait là-bas. Puis moi, ça m'a flabbergasté. Nous autres, quand on était jeunes, mon père nous faisait ça sur un poêle mélangé. C'est les poêles à bois, là. Je pense que toutes les familles québécoises d'une maison avaient ça. Ils mettaient le pain là-dessus avec la viande puis le stock, puis on mangeait ça, puis c'était vraiment bon. Puis, quand j'étais allé au Liban, c'était vraiment omniprésent. Puis, en revenant, j'ai dit à mon père, je disais, hey, ça, là, tu te mets dans une binerie à quelque part, puis ça marche, tempête. Le monde, ça se mange bien. C'est meilleur que, tu sais, bien des affaires qu'on mange sur le pouce, là,
ouais.
Une petite bouffe sur le pouce.
Ben, moi, je me souviens que mon beau-père nous faisait ce type de galette-là, puis c'était délicieux.
Ouais, c'est ça. Ouais. Les larmadjounes, qu'on appelle. L'armabagine, de
voilà,
vrai terme.
Voilà.
Mais bon, après ça, nous autres, on a eu le spot, c'est la Grande Allée. T'sais, ça, c'était en 2012 qu'on a eu ça. Le propriétaire de l'immeuble, il y avait un espèce de petit cabanon. Que ça, tu l'as vu, là, c'est
ouais.
Le premier. Puis, un petit peu de réticence du côté des parents. Ils n'étaient pas sûrs. Ils se demandaient si la saveur serait au rendez-vous, si les gens vont apprécier ça ou peu importe. On a fait des essais-erreurs aussi. Au début, on a commencé beaucoup plus traditionnel.
Okay.
On l'a beaucoup plus américanisé, on va dire ça de même, pour, uh-huh. Pour les goûts québécois. Puis
mais là, vous étiez des jeunes à ce moment-là. C'était un local.
T'avais
27.
Mon frère, il avait 29.
Propriétaire de l'établissement, vous ne connaissez pas. Vous êtes arrivé là. Comment ça s'est passé, la négociation avec le propriétaire sans grand aller? Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui doit être un
ouais,
homme d'affaires.
Ben, oui, mais il était. Ben, dans le fond, c'est M. Véro qui s'appelle, Jean Véro. C'était le fils à Gilles Véro qui avait les vieux canons.
OK, oui.
Lui, il avait 4-5 bâtisses. Il a vendu la bâtisse de l'atelier. C'était à lui qui avait la maison du steak.
Ouais.
Ça y appartenait. Il y avait l'autre bâtisse à côté. Puis il y avait quelques autres immobiliers un peu partout, mais ils cherchaient. Il était vraiment cool. Ça, c'est le bout que, tu sais, je pense que de notre côté, nous autres, ce que mon père nous aura légué comme legs, c'est un bon nom. Puis, tu sais, d'arriver à quelque part, tu sais, de dire, ben, tu sais, c'est du monde sérieux qui sont travaillants puis qui vont être capables de rendre ça fonctionnel.
Ouais.
Parce que c'était pas grand. Là.
C'était 288 pieds carrés. Les Thanos.
Ben, au départ, il avait approché mon père.
OK.
Mon père, proche de la soixantaine, il voulait pas s'embarquer dans un nouveau projet. Moi, je l'entendais parler, je disais, attends une minute, moi, j'ai de quoi entrer, puis je pense que ça va marcher tempête. Fait que là, c'est pour ça que j'ai vu... on l'a pris de l'avant, là, puis on a foncé dessus.
Puis le financement du projet, ça, vous...
C'est moi-même, ça, c'est tout ça. Là. Tu vas pas à la banque pour une affaire de même.
Non,
là,
ça marche pas.
Non. Au début, non. Tu sais, je pense, je trouve que la restauration, c'est déjà mal vu par les banques, là, à
ouais.
Base, là. Je veux pas dire que c'est généralisé, là. T'sais, je vais pointer des bannières de Québec. Là, t'sais, je regarde Salvatore, mettons, qui nous vend un par semaine. Là,
ouais.
T'sais, je veux dire, c'est magnifique ce qu'ils font. Mais avant d'avoir cette capacité et cette preuve-là, tu peux pas arriver et dire, hey, moi, je vais ouvrir quelque chose. ça va être ça ma projection, c'est ça que je vais faire. C'est difficile d'aller chercher un financement. Okay. C'est très, très, très difficile.
Salvatore, il y a comme une autre façon de procéder. Ils sont plus dans l'immobilier que dans la restauration maintenant. Ils sont,
oui,
mais
ben,
ils font un peu ce que McDo a fait, là, les créateurs de McDo. Ils faisaient, oui, il y avait un McDo, mais c'était de l'immobilier. Là.
C'est la valeur, la plus-value. Là, tu prends un terrain, tu prends une bâtisse, tu prends un effet levier. Là, tu bâtis ton restaurant, tu le vends en franchisé ou peu importe. Là, voilà. Tu peux t'organiser de quoi. Ça peut être très, très profitable. Mais aussi, le fait que leur restaurant existe depuis plus que plusieurs décennies, ben, ils ont de quoi de tangible, ces papiers.
Exact.
T'sais, je ne te cacherai pas que moi, mes entreprises, actuellement, quand on ouvre une nouvelle, on va chercher un prêt. Là. T'sais, parce que justement, je suis capable d'amener mes chiffres d'affaires et de dire, t'sais, bon, okay,
ça fonctionne.
Le gap de la pandémie qu'on a fermé un peu, là, mais à part ça, quand je montre mes papiers, ils sont vraiment là, les banques sont contentes.
Fait que tu as financé ça avec ton propre argent sur la Grande Allée,
ouais.
ça demandait-tu beaucoup d'équipement?
Hey, ça, c'est le pote qui est malade. Écoute, ça, j'adore en parler. On a comme un album là, qu'on est en train de rafistoler. T'sais, nous autres, la Grande Allée a fermé en 2021 pour des rénovations majeures.
Ouais.
On réouvre cette année, là, au printemps. Puis, quand on avait ouvert, là, on avait acheté un four sur Kijiji à 400$, là, une cochonnerie. Je pense que le sablé, ça a pris 10 heures là, de le nettoyer, le sablé, de sortir leur peinture. On a fait une méchante job, changer les éléments. T'sais, on a fait une bonne job dessus. On a commencé avec ça. T'sais, c'est sûr que à un moment donné, tu commences avec... Il faut que tu ailles les moyens à la hauteur de tes ambitions aussi. Là, c'est important. Puis quand on l'a fait, ça a bien été. On a acheté un petit pétrin pour faire la porte, un congèle-tombeau, puis un frigidaire à gauche, à droite, une table froide, deux, trois patentes. Puis encore une fois, nous autres, ce qui nous a beaucoup aidés, c'est que quand on a ouvert, autant les emballages, les produits d'emballage ou les choses de même, nos fournisseurs, on avait des termes avec eux autres que ils nous faisaient confiance.
Okay.
C'est rare que, mettons, je vais donner un exemple. T'sais, Hydro-Québec, tu t'abonnes à Hydro-Québec dans le commercial, ils te demandent, avant même de t'envoyer n'importe quoi, ils te demandent un dépôt de garantie de 3 000$ qui te rembourse 10 ans plus tard. Mais au début, 3 000$ là, pour une entreprise qui commence avec 17 000, 20 000, c'est de l'argent. T'sais, ça monopolise une grosse partie.
Ouais.
Fait que, des fois, la confiance de tes fournisseurs, ça t'aide beaucoup, beaucoup. Puis nous autres, c'est ce qu'on avait commencé avec ça. On avait commencé avec, comme je le disais, des affaires usagées à gauche, à droite.
Okay. Puis il y avait de la clientèle déjà dès le départ quand vous avez ouvert vos portes?
Non.
Non?
Ben, au début, oui. Les gens y arrivaient. Ce qui était vraiment le fun, c'est que le client qui venait chez nous puis qui goûtait la première fois, c'est instantané, il revenait le lendemain.
Il revenait.
Il aimait ça.
Ouais.
Fait que là, je dis, OK, là, on a quelque chose de pas pire. Fait que là, on s'entendait qu'on avait une bonne ligne directrice. C'est comment qu'on va perfectionner notre travail pour que ça fonctionne encore mieux puis améliorer notre visibilité puis notre efficacité. Fait que là, ça a été vraiment un problème problème au départ. On ramassait les line-up du McDonald's puis du Ashton puis tout ça. Parce que quand il y avait des grosses files, le monde était écœuré d'attendre, il venait chez nous parce qu'il n'avait pas une longue file.
Ça, les jeunes qui nous écoutent, ils comprennent pas, là. Mais
non.
C'était l'enfer, ça, Grande Allée, tellement qu'il y avait du monde.
Grande
Parfois,
Allée,
moi, je faisais, tu sais, je travaillais au bout de Laurier, je travaillais au Cosmos.
Oui.
Puis mon appartement était dans le secteur de la basse ville. Sais-tu où il était l'ancien l'épine écloutier? Ben, l'Aubrivière.
Oui.
Bon, j'avais un appartement au-dessus de ça. Puis je passais par la Grande Allée les soirs, tu sais, le lundi soir, mardi soir, parce que je savais que ça allait être tranquille. Mais rendu le mercredi, là, si j'avais oublié qu'on était rendu mercredi, fallait que je me watch sur Grande Allée parce qu'il y avait plein de gens qui faisaient la transition là, sur la Grande Allée. Là, ils traversaient la rue. Puis là, le jeudi, c'était l'enfer. Il y avait du monde dans la rue le vendredi. Fait que quand on parle aux jeunes maintenant que ah non, il y avait des fils à n'en plus finir au Ashton, au McDo, puis que toi, ça s'en allait à Galette Libanaise, ça n'existait plus, ça. Ça n'existe plus aujourd'hui.
Non, définitivement plus. Ben, des fois oui, des fois non, ça dépend. Mais
l'été plus peut-être.
Ouais. Moi, je vais me donner mon espèce parce qu'on va en parler un petit peu plus tard.
Ouais.
Quand j'ai pris le local sur la Grande Allée, là, le fameux le petit carré, le cabanon, là, peu importe, le 641, c'était le dernier local de libre sur la Grande Allée.
Okay.
Il n'y avait rien d'autre. Puis il avait fermé quelques années avant, c'était une crèmerie qui était là. Puis nous autres, ben, tu sais, il y avait le Milsa qui était encore là. Dans le temps, c'était le Ginkgo, je pense qu'il s'appelait, c'est devenu le Milsa. Après ça, là, c'est le groupement qui a acheté ce quadrilatère-là. Il y avait le Second Cup, il y avait le Starbucks, il y avait un paquet d'affaires, on peut en parler. Là.
Ouais.
Je pense qu'il y avait encore le Bamboo Express qui était encore sur la Grande Allée dans le temps.
Possiblement.
Là, ou qu'il y avait le Sherlock dans le temps, puis le Vogue, là, à côté de la bâtisse de la capitale.
Fait que vous récupériez les gens qui étaient supposés d'aller au McDo puis au Ashton, ils allaient à Galette Libanaise, puis à partir du moment où ils goûtaient au produit, là, ils savaient que le spot était là.
Ouais, c'est là qu'on a commencé à cartonner beaucoup.
Vous deviez faire des heures pas possibles.
Ah, mon horaire, c'était 6 jours semaine de 10h à 4h du matin, puis j'allais faire une sieste en après-midi.
10h le matin?
Ouais.
Jusqu'à on arrivait... 4h du matin?
Ouais, c'était... Ouais, faut être là. Pour, on n'avait pas. sais, tu peux pas t'engager un paquet de monde, puis toi, ils vont pas vendre. Tu sais, moi, c'est les recettes à la familiale. Tu sais, comme je te le parle tantôt, il y a une histoire derrière ça. Il y a le fait qu'on mangeait ça quand on était jeune sur le poêle Bélanger. Tout ce storytelling-là, il était important dans les premières années du lancement de l'entreprise.
Ouais.
Surtout pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut corriger. Tu sais, nous autres, on avait commencé avec des olives Kalamata. Les gens, là, ils en demandaient à côté. Mais ça vient salé, c'est plus mangeable. Mm-hmm. Après ça, on a switché pour les petites olives noires. On serait peut-être. On va checker à un moment donné qu'est-ce qu'on va faire si on va pas changer nos condiments ou ce qu'on met dans nos galettes. Mais la seule manière d'arranger ça, c'est d'être là, puis de voir, puis de consulter ton client.
Non, de 10h le matin jusqu'à 4h du matin.
Ah, j'allais faire une sieste. Là. Il y avait un bout que je prenais un break. Là. Ça, c'était le festival d'été.
Ça devait être raide sur le body en sacrifice.
Je te le jure que oui. Non, tu sais, mettons, ma vraie horaire, mettons, c'était 10 à 2.
Salut Tony, j'ai entendu dire que tu étais célibataire. Je m'appelle Sandra.
Ouais, non, ça fera pas.
Tu fais quoi à 4h du matin?
Voici mon horaire.
Non, mais tu sais, ça, je donne le pire exemple pendant le festival d'été parce que là, tu sais, on avait tellement de prods à faire. Puis nous autres, tu sais, je l'ai tout le temps dit, Grand Alley, c'était notre plus grande force, c'était la grosseur du local.
Ouais.
Notre plus grande faiblesse, c'était la grosseur du local. Uh-huh. Tu sais, il faut que tu te casses la tête. C'est servir 1000 personnes dans 300 pieds carrés. C'est dur, là.
Tu te souviens-tu, tu payais combien de taxes quand tu es arrivé en 2012?
Oui, en 2012, là, ça nous coûtait même pas. C'était un petit peu en bas de 4000.
4000 piastres de taxes par année pour un petit local commercial directement sur Grand Alley.
Oui, puis ça, c'était en 2012, là, c'était la première année. Puis quelques années après, faut pas oublier que il y a eu beaucoup de décisions politiques à la ville.
Ouais.
Ils ont privatisé le déneigement, ils ont privatisé les services d'ordure. Puis là, ben, il y a eu le bordel qui est arrivé. Ça fait plusieurs fois que je pense qu'on s'est connus un peu, on s'en était parlé une fois ou deux. Là. Les ordures avant, c'était l'école bleue qui s'en occupait, c'était pas des compagnies tierces ou peu importe. Je suis pas en train de sacrer après eux autres ni rien. Mais ils ont pu les puces qu'il y avait autrefois à la ville de Sainte-Foy. Mettons, comment ça fonctionne, les ordures? Je parle juste de cet exemple-là. Ils viennent, ils lèvent, ils font une tare, ils drop, ils redescendent, ils font une tare, ils choisissent, tu sais, ils facturent ce qu'il a ramassé en ordure. Puis ça, nous autres, on recevait une facture en fonction de la tonne métrique utilisée.
Okay.
Maintenant, ils font une évaluation. Fait que là, l'évaluation, comment ça marche? Ils disent, t'as un conteneur de tant de verges, t'es responsable à tel cas de port, fait qu'on te charge 5,16 tonnes métriques d'ordure. Là, moi, j'étais là, je me gratte la tête, je me dis, crime, 5,16 tonnes, je trouve ça un petit peu beaucoup. Fait que là, j'appelle mon fournisseur, là, dans le temps, c'était FLB, fruits et légumes beaux porcs, j'appelle.
Ouais.
Hey, peux-tu m'envoyer un rapport de vélocité? Nous autres, ce qui est le fun dans la restauration, 100% de nos produits qu'on achète, c'est au volume de poids. Fait que tu sais, tu reçois une facture, là, c'est marqué en bas de la facture, poids total de ta commande, c'est tel poids.
Ouais.
Tout est écrit. Même les Pepsi sont là-dedans, les Coke, peu importe ce que tu commandes, là, ton fromage, tout est là. Fait que là, moi, j'avais acheté 3,14 tonnes de nourriture, mais je t'ai facturé 5,16 tonnes d'ordures.
Ça marche pas, là.
Là, je dis, Chris, j'ai pas coulé du ciment dans mon conteneur pendant ce temps-là. c'est le truc qui passe pas.
Ouais.
Fait que là, on a commencé à. C'est une des premières fois que j'ai eu une querelle avec la ville en disant, tu sais.
Ils t'ont-tu écouté?
Non, jamais. Ben, jusqu'à temps qu'on les rencontre en 2016, à un moment donné, il y a comme eu un front de commerçants. Là,
ouais.
Moi, Philippe Desrosiers, on était une couple. Là, puis on avait jasé de ça, puis on a amené ce point-là en disant, tu sais, il y a de quoi qui ne marchera plus à un moment donné. Il y a de quoi qui tu sais, ça bloque. Tu peux pas continuer à faire, on augmente les commerçants de 2,4%, 3,4%, 4,7% la dernière fois, mais ta bâtisse qui valait 700 000, elle en vaut 3 millions aujourd'hui. Tu sais, faut faire le ratio aussi. À un moment donné, il y a de quoi qui marche pas.
Exact.
À la fin, c'est rendu que ça me coûtait 17 000 ou 18 000 par année de taxes en 2019-2020.
Mais Tony, tu sais, on fait attention aux mots qu'on utilise, mais en même temps, c'est moi qui les utilise, mais ça s'apparente à un racket. Là. On dit, non, mais toi, tu jettes à peu près tel nombre de déchets. Là, toi, tu dis, toi, tu le calcules. Tu dis, non, moi, c'est impossible que je jette ça. Là, tu sais, je vous envoie pas de la roche d'un bac. Là, c'est impossible. Puis ils t'écoutent pas. Ça veut dire que c'est payant pour eux autres de continuer de mentir comme ça puis de pas t'écouter. Là.
Après, ben oui, j'imagine. En tout cas, il y a quelqu'un qui ramasse l'argent quelque part parce que tu sais, tu peux pas être en défaut de paiement.
Ouais.
Si t'es dans le défaut de paiement, tu sais, c'est quoi qui se passe? C'est le propriétaire qui. Ben, tu sais, moi, il faut que je m'ostine avec un propriétaire que si lui décide de pas s'ostiner, c'est autre chose. Là. Tu sais, moi, je suis locataire là-dedans.
Exact.
Mais tu sais, au moins, ça, c'est le bout qui est pas pire. On va donner ça, c'est que même les locataires ont quand même un pouvoir de parole. C'est la seule chose que je vais dire là, qui était bénéfique parce que tu sais, moi, quand je suis arrivé à la ville, puis je suis allé rencontrer la mairie à l'époque. Je n'étais pas propriétaire de l'immeuble.
Tu avais rencontré qui à la mairie? T'avais-tu rencontré directement le maire ou c'était des conseillers?
Le maire, Régis Labeaume avec Louis Côté. Puis, la rencontre a quand même... Tu sais, pour ce bout-là, ça a été bon. Puis la ville, ils ont vraiment... Écoute, je veux pas parler des autres, là. Cette fois-là, il y a eu un petit vecteur d'écoute parce que, tu sais, j'avais enligné... Tu sais, moi, j'avais mon dossier était vraiment préparé. Là.
Ouais.
La prochaine étape, c'est que je portais plainte à Industrie Canada parce que les municipalités ne sont pas tenues de charger le bon montant. C'est le bon taux, le bon... ils ont une marge d'erreur qu'ils peuvent faire sans être condamnés. Mais leur ratio maximal d'erreur, c'est 5%. Mais tu sais, 3,14 tonnes d'ordures, 3,14 tonnes de nourriture pour 5,16 tonnes d'ordures, le 5%, ça fait longtemps qu'il est dépassé.
Exact. Ils se sont-tu révisés?
Oui, ils m'ont amené, puis okay. On a commencé à jaser, puis ils sont arrivés avec plein de tu sais, ils m'ont questionné, on a instauré le recyclage, parce qu'ils n'en faisaient juste pas à l'époque. Mm-hmm. Il a fallu qu'on mette une benne. Tu sais, la benne à recyclage, on paye la location de la benne,
ouais.
Mais le recyclage, on ne le paye pas.
Okay.
Puis nous autres, ben, tu sais, tout ce qu'on commande, c'est du carton. T'sais, au départ, on essayait de faire attention, mais à un moment donné...
Fait que ça a diminué un peu le poids. Là.
Oui, mais aussi, on a changé notre benne à déchets, puis on a comme... On est allé avec des chargements arrière au lieu de chargements avant. Tu sais, on a pondu une solution temporaire qui a mis un plasteur sur le bobo. On va dire ça de même. Tu sais, à quelque part, j'ai quand même passé de 5600$ d'ordure à 680$. Ça, c'est avec des appels puis du chiolage.
Ouais, c'est majeur.
J'ai toujours ce plate que j'ai eu à passer à radio, dans les journaux, puis ouais. Des niaiseries de même pour arriver à me faire écouter pour des affaires de même. Quand au départ, n'importe qui ferait son travail, qui se fait appeler, qui se fait dire « Hey, j'ai acheté 3,14 tonnes de nourriture, vous m'avez chargé 5,16 tonnes d'ordures. » Normalement, quelqu'un qui performe dans sa job va dire « Hey, attends un peu, je vais checker de quoi, on va vous rappeler. » Puis la personne fait son devoir, puis elle va checker ses affaires, puis il rappelle, puis il valide.
Ouais, c'est tout à ton honneur d'avoir vérifié ça, puis de t'être battu pour que tes droits soient respectés. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as gagné ta cause en bout de ligne.
Oui,
mais ben... les taxes municipales sont tellement élevées. T'sais, je regardais, c'est la semaine passée, je pense, J.A. Moisan.
76 400$.
Eux autres, ils ont rénové l'édifice au grand complet. Ils ont rénové le J.A. Moisan en bas. Pouf! 76 000$ de taxes pour la dame. Là, elle décide de fermer. C'est un peu weird, là.
Oui, ben ce qui va être tough, c'est de ramener du monde aussi. T'sais, genre, moi, ça fait... Bon.
Mais qui va prendre cet endroit-là en sachant qu'au jour 1, tu dois 76 000$? T'es en dessous de 76 000$.
C'est tough, là. Tu sais, il y a tellement... Tu sais, la bureaucratie, elle a tellement été engraissée depuis la COVID, là, ça n'a pas de sens, en voulant dire que nous, c'est rendu compliqué pour les affaires. Puis je suis pas en train de dire que je me plais pas puis que je veux fermer. C'est pas ça que je veux dire du tout. J'adore ce que je fais. Moi, quand je me lève le matin puis je m'en vais travailler, c'est ce qui me rend heureux. Mais quand que... Tranquillement, pas vite, t'arrêtes pas de rajouter des layers. Puis tu sais, même moi, des fois, il y a des choses que je peux plus faire par moi-même. Tu sais, dans le temps, on prenait un... Mettons, là, je donne un exemple. Tu veux faire des demandes de permis, tu vas aller chez Revenu Québec, tu vas arranger quelque chose, tu veux ouvrir un compte, tu sais, d'une nouvelle entreprise ou peu importe, il y avait des soutiens puis il y avait des appuis. On pouvait prendre rendez-vous avec un humain, aller s'asseoir puis régler tout. Maintenant, tu sais, si t'es pas vraiment, là, avocat des affaires ou quelque chose comme ça, ben t'as pas le choix d'en avoir un sur le site qui fait tes affaires parce que
ouais.
tu vas faire les choses croches puis tu vas te ramasser en bout de ligne à payer. Fait que par-dessus les taxes qui sont rendues démesurées, en plus, on a des frais de bureaucratie qui sont ajoutés à ça. Fait que tu sais, ça affecte la rentabilité puis aussi le prix de vente. En bout de ligne, c'est le client qui le paye. Là. Moi, charge-moi 600 000 de taxes municipales par année. Mais ma galette, elle va coûter 300$. Ça n'aura pas le choix. Il faut que ça fonctionne, il faut que que tout fitte ensemble.
Parce que vous êtes pas, vous êtes des entrepreneurs, vous n'êtes pas là pour perdre de l'argent, vous êtes là pour au pire arriver kiff-kiff, mais en faire un peu dans l'idéal.
Oui, définitivement.
Puis est-ce que les clients, parce que j'avais cette discussion-là avec un propriétaire de restaurant à Sainte-Foy, puis il essayait de faire des pieds et des mains pour faire en sorte que ses assiettes augmentent pas. Mais année après année, les coûts augmentent. Puis là, tu sais, il essaie d'acheter plus gros. Il essaie de mettre des choses en place qui vont faire en sorte que le coût des assiettes augmentera pas. Mais à chaque semaine, il se fait dire que dans son restaurant, c'est trop cher. Sauf qu'il y a les taxes municipales qui augmentent à chaque année. Ça. Puis les consommateurs ne le savent pas.
Ouais, les frais de base, les taxes municipales, ces choses-là, là, je prends une corde sensible parce que ça affecte beaucoup de monde, le fameux salaire minimum, on en parle souvent aussi.
Ouais.
Je suis pas en train de dire qu'il faut pas payer nos gens, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est sûr que, je sais pas moi, le petit jeune, mettons Tony de 14 ans qui arriverait à porter son CV chez nous, il connaît rien encore, il est pas formé ni rien, je peux pas lui donner, là il parle du salaire minimum à 20$.
Ouais.
Ben moi, si je donne 20$ à lui... Comment je vais donner d'augmentation à mon autre qui est là depuis 10 ans, qui a envie, puis qui c'est sa job de vie, c'est sa profession? Tu sais, lui va monopoliser. Tu comprends qu'un payroll, nous, il faut qu'on fit un pourcentage. Il faut qu'entre 25-27% de notre masse de vente soit des salaires. Comment qu'on squeeze ça là-dedans? C'est en disparité. Mais tu sais, tu comprends que si, mettons, mes temps partiels occupent 70 % du salaire, ben, il me reste juste 30 % pour mes temps plein. Façon de parler, je vais juste dire que, tu sais, mettons sur 100 heures, il y en a peut-être 60 que c'est des temps partiels, tu sais, les soirs, eux qui viennent accompagner sur le midi, puis tout ça, mais il y a toujours une personne responsable, ça prend une personne qui dirige, tu sais, on s'entend. Mais c'est là le bout qu'on va affecter ça. Fait que là, ça, c'est sûr que ça a un impact négatif sur les prix de vente. Après ça, on arrive dans les denrées. Nous autres, on importe 93, nous autres étant le Québec, on importe 93 % de notre nourriture. Des tomates du Mexique puis des affaires de même. On s'était parlé il y a 2 ans concernant le chou qui arrivait en avion là, de l'Espagne.
Ouais.
Parce qu'il y avait des problèmes de. Pas le chou, excuse-moi, la salade, la laitue romaine puis la salade était rendue à 160$ la caisse. Là, ça avait juste plus de sens. Là. Fait qu'on a mis du chou de Québec à la place qui coûtait rien. Là, mais au moins, c'était comme une affaire pour pallier parce que c'était impossible. Là. Je mettais 4$ de laitue dans une galette. Ça n'avait aucun sens. Là. Fait que quand on est arrivé avec cet enjeu-là aussi, ben. Là, on était à parité pendant longtemps, c'était le fun. Les fermes Savoura, ils ont été rachetées par les serres Savoura, ils ont été rachetées par Demers, je pense, ou une affaire de même. Puis là, à cause que justement, l'enjeu, eux autres, quand le dollar est à parité, c'est pas bon pour eux autres parce que les tomates du Mexique sont vraiment moins chères. Puis là, on arrive avec une histoire de tarifs de... En tout cas, de tarifs de douane, ça nous aidera pas non plus si ça arrive parce que mes tomates vont se ramasser à quel prix. Puis nous autres, on n'est pas autosuffisants en légumes puis en denrées. Fait que c'est sûr que ça va avoir un impact négatif sur notre prix de vente aussi. Puis je le comprends 100 % que ma clientèle, leur salaire, mettons, la personne qui travaille dans un cabinet juridique ou peu importe, son salaire n'a pas suivi l'inflation réelle.
Non, c'est ça. Puis des fois, tu te poses la question, tu sais, les gens qui gagnent 20$ de l'heure, là, un trio à 15$ là, chez McDo, là. T'as quand même travaillé 1 heure pour te payer un trio McDo, ça a comme pas de bon sens. Là.
Ben, c'est ça. Mais ça, je pense qu'on va avoir un bon choix. C'est pas, tu sais, moi, dans la vie, je suis peut-être pas le meilleur économiste à la terre là-dessus. Ouais. Je le vis parce que je fais de la microéconomie dans mes restaurants. T'sais, c'est un peu là que je le vois. Ouais. Quand je l'applique à large, je vois que ça marche pas. Mais, tu sais, je me demande vraiment c'est quoi l'avenir. Puis, on parle de rentabilité, de commerce, de liquide. On est en train de dénaturer le centre-ville. On parlait de taux de vacances, les taux de le COVID, puis des affaires de même, puis les boutiques qui ferment les unes après les autres. Tu sais, moi, la cordée qui ferme, là, ça, à côté, puis le Benjo.
C'est pas un bon signe.
C'est zéro bon. Ben, tu sais, moi, le Benjo, ça m'amène une clientèle incroyable.
Ouais.
Nous autres, les galettes libanaises, on n'avait jamais fait des formats pour enfants avant d'arriver au Benjo, à côté du Benjo. Quand on est arrivé à côté du Benjo, tu sais, une petite famille, tu sais, mettons, tu sais, toi, les enfants, tout, je peux pas vendre une galette complète,
c'est trop gros. Ouais.
Puis on les coupe pas en deux, nous autres, nos galettes. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'était comme un peu un chiard. J'ai dit, ben, gars, je vais faire des petites galettes moins chères. Puis ça a super bien été. Les enfants, la réponse des premièrement, les parents, 2 galettes pour enfants, ça coûte moins cher. Tu sais, en partant, t'as pas de gaspillage alimentaire. Puis tout le monde est heureux là-dedans. Là. Fait que, tu sais, nous autres, on est arrivés avec ça. Puis ça a super bien été. Mais c'est juste pour dire que ça remplit mes fins de semaine. Tu sais, nous autres, les semaines, d'habitude, c'était les bureaux qui nous faisaient fonctionner les dîners beaucoup. Puis les fins de semaine, ben, c'était les familles qui arrivaient quand il y avait des activités, la parade du Père Noël ou n'importe quoi. C'était tout. Il y a eu beaucoup d'activités dans Saint-Roch. Je suis pas en train de dire que c'est pas un bon spot. Là. Mais la cordée, moi je sais que la cordée, en tout cas, peut-être que je me trompe là-dessus, mais d'emblée, je pense que c'est le groupe Mac qui avait ouvert la cordée, qui est le propriétaire de l'immeuble.
Ouais.
Bon, ben, tu sais, le propriétaire de l'immeuble, quand la cordée va partir, il continue à payer les taxes pareil. Il est propriétaire de l'immeuble.
Ouais.
C'est pas comme si moi je ferme ma galette puis je m'en vais, c'est plus moi qui paye les taxes, c'est lui qui ramasse. Là.
Mais j'imagine qu'il va modifier ça. Ils vont faire d'autres choses là-dedans. Là. Jamais
je le sais pas. Je l'espère. Là, je touche du bois que ça arrive de même. Là,
mais la clientèle, bon, toi, t'avais la clientèle à 3h du matin sans grande allée. Là. Des fois, tu dois avoir encore des beaux souvenirs de tout ça. Là. Des gens complètement sous qui voulaient
j'ai des vidéos, là, ça, c'est
bien manger. Oh.
On a eu. Hey, ça, il y a... en tout cas. On s'en parle.
Saint-Roch, de quoi ça a de l'air? Tu sais, c'est-tu parce que, bon, ils l'ont pas dit, là. Benjo, ils ont dit, ouais, c'est parce que nous, c'est pas nécessairement là, les sans-abri à l'extérieur qui chient dans notre entrée, qui nous dérangent, c'est le vol à l'interne qui était poche, là, tu sais, des gens qui arrivaient, qui se faisaient passer pour des clients, finalement, c'était des voleurs, puis ils volaient le stock. Tu sais, le magasin de jouets avait beaucoup de misère avec ça. La cordée, ils nous ont pas vraiment dit pourquoi là, ils quittaient, si ce n'est qu'ils quittaient tout simplement. Mais il y a vraiment une grosse problématique là, de sans-abri dans le secteur de Saint-Roch. Comment vous dealez avec ça?
Moi, ça fait quand même plusieurs années que je le dis, puis je sais que je me fais lancer des roches des fois quand je le dis. Il y a vraiment une grosse différence entre le sans-abri, l'itinérance,
ouais.
Puis les problèmes de santé mentale. Ça, c'est deux phénomènes complètement différents que malheureusement, il y a une classe, les sans-abri, une couple qu'on connaît bien. Moi, on en a des pertes alimentaires pareilles. Puis, tu sais, ouais. J'en donne de la bouffe. Là, tu sais, je fais juste pas du capital...
là-dessus.
Du capital publicitaire. Là, tu sais, moi, on dirait que j'ai beaucoup de misère à ça. Fait que, tu sais, moi, j'y vais directement, je les rencontre, je leur donne de la bouffe ou peu importe quoi, puis ça arrive souvent. Là. Mais des fois, c'est sûr que des fois, mettons, quand on voit qu'il y a une couple qui sont sur une autre planète complètement, ils se mettent à crier ou ils font peur aux gens. Je sais pas si vous avez déjà parlé avec la gang du YMCA en face, puis le petit gym là, qu'ils ont fait là. Puis tout.
Non.
Mais il y a des cours
de natation. C'est parce que les itinérants, ils vont manger à l'Aube-Rivière.
Oui.
Puis après ça, il y en a un petit peu sur le carré Lépine, là, qui est juste en face de l'ancien Lépine et Cloutier. Puis en face de l'ancien cinéma Charest, ça me rajeunit pas, mais le cinéma Charest était là aussi. Puis là, maintenant, c'est le YMCA qui est là. Fait que ça soit tout le long de l'édifice du YMCA.
Oui, ben, parce qu'il y a comme un espèce d'abri. C'est l'édifice aussi, municipal quand on va faire les demandes de permis, c'est là. Ouais. Puis, nous autres, on l'entend. Okay? Il y a du monde qui ne retourne pas parce qu'ils ont peur. Puis, les enfants, ils n'aiment pas ça. Un enfant, là, il y en a qui écoutent le Grinch puis ils ont peur. Mais tu sais, t'arrives là puis tu vois un espèce
un
de...
Un gars qui crie, qui est en crise.
Un gars qui crie, qui se met à varger avec des paniers d'épicerie à terre. Ça se peut que, ça prend pas grand-chose pour déstabiliser un enfant. Là. Puis tu sais, je serais le premier à pas vouloir amener mon enfant là-bas. Là. Mais tu sais, je sais pas à quel point le monde cancelle leur abonnement à l'eau ou quelque chose de même, mais si tu cancelles ton abonnement de natation de ton fils ou ta fille là-bas, il y a beaucoup de chances que tu retournes plus manger dans le restaurant à côté de là. Là.
Exact.
C'est unanime. Là.
Ouais.
Fait que, tu sais, je pense que ça a un petit impact négatif. L'autre chose, tu sais, les bureaux en haut, là, c'est rendu n'importe quoi. Là. C'est, tout est vide. Tu sais, je veux dire, ils parlent de taux de vacances, mais est-ce qu'ils prennent en considération tu sais, il faudrait. Cette étude-là là, qu'ils ont faite, moi, quand je l'ai vu passer, je dis, tu sais, c'est basé sur quoi le pourcentage? C'est-tu le pied carré? Est-ce que c'est le nombre de portes non louées? Parce que si tu as un bureau de 11 000 pieds carrés qui est occupé, mais il n'y a plus d'employés dedans, puis eux autres disent, ben non, lui, il est occupé. Ben, c'est biaisé comme étude, ouais. Ça marche plus.
Il n'y a pas de vitalité là, avec ça.
Ben non, ça amène à rien.
Ouais.
Tu sais, puis il parle du Airbnb et des choses de même. Selon la chambre hôtelière ou je sais pas comment, l'association hôtelière, il manquerait dans le centre-ville de Québec 1000 chambres ou quelque chose comme ça. Fait que tu sais, des Airbnb, je comprends que ça crée quelque chose, mais on serait-tu rendu à faire. T'sais, j'en parlais hier avec une autre journaliste, puis j'ai amené mon point là-dessus. J'ai dit, est-ce que notre système d'habitation va être voué à changer dans les prochaines années. Je ne suis pas en train de dire que le télétravail, ça ne doit plus exister et il faut que ça s'en aille. Mais est-ce que ça va devenir des habitations à la place d'avoir des 5,5? Parce que tu comprends que le monde qui font du télétravail, bien, ils se prennent des appartements plus gros pour avoir une chambre bureau.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, ça enlève un petit peu de place pour les familles. Là, tu sais, ça occupe. C'est normal. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça l'emblée qui déserte le centre-ville. Mais tu sais, que de moins de monde habite dans plus grand, ça enlève un peu de score pour les familles, là, de place pour que les familles puissent aller s'habiter, là, habiter tout simplement. Puis c'est normal.
Mais la ville, vous écoute-tu par rapport à tout ça? Sentez-vous, tu sais, je vais te poser la question, est-ce que tu vois une différence entre l'administration du maire Labeaume, la réceptivité de cette administration versus celle de Bruno Marchand?
Moi, je m'en cache pas du tout. Là, moi, la bombe, je veux pas. Ça a pas toujours été.
L'amour.
L'amour. Mais je pense que je l'aimais pas mal plus que Marchand. c'est bizarre à dire. Puis Marchand, tu sais, pour la première fois, je l'ai rencontré une fois, il était venu à mon restaurant. Ça m'a surpris. Ça, j'ai pas le choix de le dire. Là. C'est la première fois que ça m'a surpris. Il a visité plusieurs commerçants. C'est la Marie-Pierre de la SDC de Saint-Roch qui nous avait appelés. Puis elle disait, avez-vous que... Puis là, moi, je pensais... Je m'étais préparé une question là, qui durait 3 minutes à poser. C'est introduction, développement, la question. T'sais, puis je voulais faire de quoi de vraiment... C'est un punchline qui, pour pas qu'ils me disent qu'une question de 20 mots, puis c'est fini. Là, c'est très nébuleux. Je voulais vraiment développer là-dessus. Finalement, il arrive au restaurant à Galette. Il y a la galette libanaise sur Saint-Roch, il rentre en dedans, salut, ça va bien, tu le quittes, il commence à me jaser. Je dis, Chris, OK, excusez-moi, j'arrête pas de sacrer, il faudrait que j'arrête. Il n'y a pas d'autre monde? Il me dit non. C'est du one-on-one. Ça, j'ai pas eu le choix de dire que ça. Je sais pas s'il a fait ça à cause de la pression médiatique ou quelque chose comme ça, encore une fois, mais j'ai trouvé ça quand même assez audacieux, puis, tu sais, aimable de sa part de se promener puis d'aller voir des petits commerçants comme moi, les voisins à côté, le London Jack ou peu importe. Ou ben... Puis ça, c'est important. Parce
Qu'est-ce qu'il t'a dit?
On a parlé de tout ça. J'ai pas pu parler des taxes municipales et tout ça parce que le but de la rencontre, c'était l'itinérance, la maladie mentale, puis de ramasser. T'sais, nous autres, c'est plate, là, mais tu sais, quand t'arrives le matin et t'es pogné à trouver des seringues à terre et des choses de même. Puis je vais dire... Je,
les vitrines cassées. Mon chum Steph Leblon qui est...
Deux fois chez nous.
Chez vous, deux fois, c'est ça. Mon chum Stéphane Leblon, de chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, s'est fait péter la vitre. Lui, il est au deuxième. S'est fait péter la vitre de son commerce en bas, là. Mais pour aucune raison, il n'y avait personne qui habitait là. C'était un logement qui était pas... C'était un espace qui était vacant.
Ouais.
Ils ont juste sacré une roche là-dedans. Toi, c'est deux fois.
Ouais. Une fois, c'est un vol. L'autre fois, c'est une roche comme ça. Puis on le voit ses caméras. Puis on l'a... Moi, en tout cas, on l'a pogné, là. Ça, c'est l'autre affaire. Il n'y a pas de répercussions. Quand on pogne un voleur... Bon, moi, je fais partie des... Je sais pas pourquoi ça s'abat tout le temps sur moi, là, mais on dirait que il m'arrive quelque chose... J'ai pas peur de jaser aux médias, je m'en fous, fait que, tant mieux, mais je m'ai fait approcher. Je m'étais fait voler mon vélo, ils ont cassé ma fenêtre, j'ai fait de quoi, puis il y a eu des entrevues suite à ça. Puis nous, on pogne le gars, puis quand on va à la police, puis on dit « Écoute, voici mon rapport de police, moi j'ai pas le nom de la personne, fait qu'on va l'appeler monsieur le 3 mai, là, parce que ça arrive le 3 mai, monsieur 3 mai qui a cassé ma fenêtre, ben, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec lui, parce qu'on le croise encore. » Puis il y a rien. Il y a pas de répercussions. Tu sais, tu parques ton char 15 minutes de trop là, dans un parking, tu as 91$ d'amende, mais tu défonces une fenêtre puis parce que tu sais, je suis pas en train de dire que ces gens-là ils vivent pas de misère, là. Mais parce que tu es dans la misère, là, ils te remettent dans la rue. Personne veut. Personne. Au pire, prenez mon 91$, financez des travailleurs sociaux puis allez le chercher, tu sais, ouais. Cadrez-les.
Mais Tony Thanos, t'as ça, tu mets le doigt sur le bobo, là, c'est que vous payez tellement cher pour pouvoir faire des affaires puis réussir à faire votre entreprise un succès. Vous avez besoin de services, puis une fois que vous avez besoin des services, les services ne sont pas toujours là. Puis les services de police de la Ville de Québec essayent de faire ce qu'ils peuvent, là.
Ils n'ont pas d'outils.
80% des interventions au centre-ville, ça touche la santé mentale. Puis s'ils réussissent à mettre un enquêteur sur ton dossier de vitrine, Tony, ou sur ton dossier de vélo, ben l'enquêteur, il va peut-être trouver le gars, mais rendu en cours, le gars, il est psychotique.
Je t'arrête une
il savait pas ce qu'il faisait. Pauvre petit, on va l'envoyer en cure de désintox. Ça mène nulle part.
Ce qui est plate, c'est que j'ai même pas besoin de l'enquêteur. Ce qu'il doit faire, c'est juste coller les morceaux ensemble parce que je l'ai pogné, le gars.
Oui, mais...
Je sais c'est qui.
Je comprends. Mais toute ta démarche n'est pas valable en cours. Ça va prendre un enquêteur.
Non, c'est les policiers qui l'ont arrêté.
OK, les policiers l'ont arrêté.
C'est parce que moi,
j'habite
à 3 minutes de ma succursale.
Okay. Je pensais que tu me disais, non, moi, non. J'avais le nom du gars, je l'avais envoyé à la police de Québec, j'avais pas de retour. Je comprends.
Nous autres, qu'on a fait, on a décidé de... Tu sais, on a mis des colonnes en fenêtre, il n'y a pas de valeur monétaire. Puis, tu sais, on essaie de dissuader un peu le crime, là, on s'entend. Nous autres, tous les soirs, quand on ramasse la caisse est ouverte, il n'y a plus de tiroir caisse, il n'y a pas une scène dans le commerce. Tu peux pas partir avec ça. Il faudrait que tu rentres là avec un pick-up et arracher un coffre pour partir avec. Oublie ça, ça n'arrivera pas. Mais quand on a... Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir d'une certaine heure, après la fermeture, quand on met l'alarme, il n'y a pas de délai d'entrée. Moi, si je veux aller vérifier quelque chose, aller faire de quoi à mon restaurant, faut que j'enlève l'alarme avec mon sel avant de rentrer. Parce que la seconde que tu rentres passé telle heure,
ça sonne.
L'alarme part direct, la police s'en vient. C'est même pas... C'est même... Fait que, tu sais, en faisant ça, c'est ce qui a permis que la dernière fois qu'il y a un gars qui a défoncé à la fenêtre, l'alarme est partie, les policiers ont été avisés, moi j'ai été avisé, on est arrivé, on l'a pogné à peine 10 mètres plus loin. Puis on l'a identifié, ses caméras, c'est lui, on le voyait, attendait. C'est comme arrivé tellement vite qu'il s'est fait pogner, puis là on le sait c'est qui. Mais comme je te dis, on le recroise encore, il n'y a pas de problème, il se promène, ça, les mêmes crimes arrivent encore, puis je veux dire, c'est plate un peu. T'sais, nous, quand il a défoncé notre fenêtre là, c'est, les assurances dans ce secteur-là, le déductible pour une fenêtre, c'est 7 500$. Fait que ça veut dire, les assurances disent, appelle-nous pas, à moins que tu aies vraiment besoin. C'est ça que ça veut dire, en d'autres termes.
Ça, on finalement, tu as payé ta vitrine.
Ben oui, je la paye, mais tu sais, c'est le profit sur combien de galettes, ça, tu penses?
Ces vitrines-là, ça coûte combien?
Encore une fois, j'ai été chanceux là-dessus, parce qu'au départ, quand j'avais appelé, c'était une soumission qui coûtait au-dessus de 3 000$. Moi, j'ai parlé avec mon propriétaire d'immeuble, j'ai dit, écoute, je sais que tu en achètes plus que moi des vitres dans ta vie.
Ouais.
C'est le groupe Mac pareil. Puis ils ont été vraiment dadons avec ça parce qu'ils m'ont mis en relation. Ils disent, écoute, nous autres, on ne gère pas. On te plug avec notre vitrier, puis tu le payes direct.
Ah, good job.
Fait qu'on a passé de 3 500$ à 800$.
Mais quand même.
Oui.
C'était pas à toi de payer ça.
Non. C'est mon budget. Ça, c'est mes REER qui payent ça. Quand, à chaque fois qu'on a une dépense, excuse le terme, qui est farfelu, qui est out of bound de même, ben en réalité, c'est la profitabilité du commerce qui te paye. Donc, la rentabilité du propriétaire. Je peux pas dire à mon staff, hey, on s'est fait défoncer à la fenêtre, je vous enlève toutes 2$. Ça marche pas de même.
Non, ça marche pas de
même. Je peux pas dire au client, je vais vous mettre moins de poulet dans votre sandwich parce que je me suis fait défoncer. Tout le chemin prend son cours, mais on a une fenêtre de défoncer à ce moment-là. puis on la paye.
Non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que tous les clients résidentiels qui se sont fait voler puis qui ont vu le policier venir porter un petit carton avec un numéro de dossier, là, vous donnerez ça à vos assurances, tu rentres jamais parler de tes voleurs, là.
Mais non, c'est ça, puis c'est ça le pire, là. C'est, moi, en tout cas, puis on parle de faire des pistes cyclables partout, puis tu le quittes, mais puis là, je veux pas embarquer dans ce dilemme-là, mais à un moment donné, en haute saison, c'est ce que le policier me disait, là, l'enquêteur, il me disait qu'il y a au-dessus de 1000 vélos volés par semaine. Mais ça donne quoi de faire des pistes cyclables? Même si tu vas au métro, t'as acheté une peinte de lait, puis tu reviens, t'as plus de bicycle.
Ouais.
C'est fini, là, ça, je veux dire, c'est... OK, il y a les à vélo, mais à un moment donné, ce sera pas...
Puis l'enquêteur, il vérifie pas les 1000 dossiers, là.
Ah, il peut pas, c'est impossible. Ils ont pas... Puis encore une fois, je veux qu'on comprenne, c'est pas les policiers le problème. Ils ont pas d'outillage. Tu sais, on leur enlève tous les outils possibles, les affaires de même. Ils se ramassent que... Il essaye de combler de quoi avec des... Tu sais, moi, à un moment donné, à force d'appeler, j'ai appelé 4-5 fois. On a retrouvé mon bicycle, finalement. En pièces détachées, complètement finies. Il est bon pour la scrap. On n'a jamais été capable de le réparer. Tu sais, c'est un bicycle hybride, là. Ouais. En tout cas. Puis j'ai fait, bon, OK, c'est fini, là. On va abandonner le dossier. Puis le gars, je le croise des fois en bas de chez nous, puis...
Mais tu restes, est-ce que tu restes dans le secteur Saint-Roch maintenant?
Pas Saint-Roch, j'habite dans Montcalm.
Dans Montcalm en haut?
Oui.
Ah, OK.
Ben, tu sais, ça fait 4-5 ans bientôt que j'habite là, mais j'aime beaucoup le secteur. Tu sais, moi, j'adore. J'ai habité longtemps sur à côté de Cartier, là, ouais. À côté de l'avenue Cartier, sur René Lévesque.
Ça, moi, ça a été mon pire appartement, là. Le meilleur et le pire. Ah ouais. C'était l'appartement où tout le monde venait.
Chez
le vendredi soir, mais c'était proche, là. C'était sur Crémazie, ça se peut-tu?
Oui.
C'était quartier, pas quartier. Ouais, c'est ça. Quartier à Dessin, c'est ça?
Oui, ben quartier à Dessin, puis à Monte, t'es deux sens.
C'était quoi quartier, puis Crémazie? Puis on restait au 3 ou 4e étage avec deux autres de mes chums. Chaque fois que j'arrivais de travailler chez nous, il y avait tout le temps une vingtaine de personnes dans la maison. C'était... hallucinant.
Ben c'est beau, la vie au centre-ville. Ça, c'est le bout que... Là, on parle des choses plates, mais il y a des choses qui sont le fun. T'sais, moi, le centre-ville, qu'est-ce que j'aime? Autant, je parle de Saint-Jean, puis tu le quittes. Tu sais, on parlait du projet du fort. L'îlot Dorchester.
Oui.
T'sais, moi, l'îlot Dorchester, je trouve que c'est magnifique.
Ce qu'ils veulent faire.
Ben, tu sais, c'est ça qu'on a besoin.
Ça va t'amener du monde, pas pire.
Faut ramener du monde dans le centre-ville. Ouais. Faut ramener de la diversité, des habitants, des hôtels, des boutiques, tu sais, des... T'sais, on parle de construction neuve, t'sais, je sais pas comment. T'sais, toutes les nouvelles affaires, les Trudel, on voit ce qu'ils font dans le coin de Fleur-de-Lys, ouais. Sont en train de faire. C'est ça l'avenir d'avoir des appartements puis des condos ou des choses de même avec un espace commun pour les aires de travail, pour le télétravail ou des choses de même. Je sais pas, là, je donne un exemple. Mettons, tu as un immeuble qui a 200 unités. T'sais, on va dire ça de même, là, 20 étages, 10 unités par étage, on va dire qu'il y en a 200. Puis là, t'arrives, puis là, tu t'installes une galette libanaise dans une espèce d'air commun que les gens peuvent aller travailler en télétravail ou peu importe, avec des un peu comme la maison Smith, mettons, à ce qu'ils ont fait à Limoilou.
Ouais.
Tu sais que tu peux rentrer dans un petit cabane, comme toi ici, là, tu rentres là-dedans, tu fais ton travail, tu fais tes choses. Tu sais, t'es isolé, puis t'es pas chez vous. Ben, c'est peut-être ça, l'avenir, à un moment donné, d'avoir un peu des appartements différents.
Garde ton idée, parce qu'on va recommencer avec ça tout de suite après la pause. Je vous rappelle qu'on a le plaisir d'être ce soir avec Tony Tanous, qui est le propriétaire, copropriétaire des Galettes Libanaises. Il y a toi, ton frère. Ton père, es-tu encore là-dedans?
Non, mon père est retraité.
Juste toi puis ton frère?
Yes.
Ton père, essaie-tu de se mêler des fois de vos affaires?
Hé, Chris.
On va faire une pause, mon
gars. C'est ça, on va faire une pause.
Marceau, le soir. Gravel. Dans le retour. Gravel.
Il y en a qui veulent savoir si ça t'est déjà arrivé d'appeler au 911 parce que t'avais plus de rouleaux de papier de toilette dans ta cabine.
Non, c'est nous autres qui allons appeler.
Oui, c'est nous autres qui allons appeler.
On venait de se rencontrer.
Mais c'était vraiment ça, là.
C'était notre deuxième date.
Je me souviens surtout de Denis qui essayait de demander à une employée de la place de venir avec lui dans les toilettes.
Ça, c'est l'autre affaire. Ben oui. J'avais l'air de Gilbert Rozon.
Un genre de prédateur.
Tu sais, le gars qui explique, hey, je sais que mon histoire, ça tient pas debout, là, mais j'ai une amie qui est dans la toilette. Il faudrait que t'ailles porter du papier.
Je te suivrai pas, je te jure.
Oui, ben j'y ai dit.
C'est pas les toilettes du restaurant, c'est ça du
parce que quand j'ai commencé à y raconter l'histoire, à reculer de trois pas... Mais
je peux comprendre,
puis là, j'ai fait, bon, OK, j'ai l'allure que j'ai, faut que j'explique davantage.
Mais c'est sûr, et moi, honnêtement, j'aurais amené un collègue avec moi, là, tu fais sortir du restaurant.
Gravel, dans le retour. 102.1 en semaine, 14h.
Venez découvrir le Jukebox Craft au Carnaval de Québec. Assiste à des spectacles avec Roy Band Story, Best Of, RSVP et DJ Bonhomme. Monte dans la grande roue Philadelphia. Montre tes talents au Music Quiz Craft et joue des instruments de glace à la Disco Symphonique Craft Dinner. Cette semaine, Boulevard 102.1 pourrait vous faire gagner votre accès pour le karaoké en plus d'une paire d'effigies et deux consommations. Du 7 au 16 février, en Way d'or, au Carnaval de Québec, en collaboration avec l'Auto-Québec.
On veut du positif en 2025 et avouez que de débuter l'année dans un VUS flambant neuf de Pocket Mitsubishi avec un congé de paiement de 90 jours, ça part bien. En plus, profitez d'un taux à partir de 0,99% à l'achat ou à la location d'un Outlander 2024 à essence. Vous êtes fidèle à Mitsubishi? Donald et son équipe réduisent le taux de 1%. Ça fait donc un taux à partir de 0% et 90 jours sans paiement. Amenez-en des bonnes nouvelles. Détails chez Pocket Mitsubishi. À Lévis.
C'est le retour des soupers à petit prix chez Normandin. Tous les jours dès 16h, pour seulement 10,99 $, savourez en salle à manger l'un des 5 repas incontournables de Normandin. Le combo pizza garnier et spaghetti, le wrap au poulet avec frites, la salade thaï, l'assiette burger smash bob ou le combo lasagne suprême et salade. 5 choix au prix vraiment spécial de 10,99 $. Dès 16h chez Normandin, on s'occupe du souper. Et ça jusqu'au 16 février. Normandin, ça fait plaisir!
Les entreprises Paradis Leclerc se spécialisent dans la construction commerciale, la rénovation résidentielle et la construction de multilogements depuis plus de 8 ans. Ça vous parle? Les entreprises sont à la recherche de charpentiers menuisiers compagnons et d'un contremaître. Détails au paradisleclerc.com, section carrière.
Les cadets, tu t'en sens capable? C'est juste pour toi. Des activités uniques et des défis à relever. Viens prendre ta place. Rejoins les cadets de la Ville de Québec. Embarque dans l'aventure. Informe-toi sur la page Facebook Cadets de la Ville de Québec.
Chérie, on devrait s'abonner à CA à Québec.
Pourquoi? On a une voiture assez récente.
Pour avoir l'esprit tranquille. Hier, j'ai failli prendre le clos tellement c'était glissant. Et si c'était arrivé, j'aurais été bien contente d'avoir de l'aide vite.
OK, mais si on n'a pas de problème, on paye pour rien?
Ben non, il y a plein de rabais sur l'essence, des billets de spectacle, dans des magasins.
C'est vrai que ça rentabiliserait notre adhésion. OK, tu m'as convaincu.
Devenez membre CAA Québec dès maintenant pour moins de 9 $ par mois et roulez l'esprit tranquille tout l'hiver. Adhérez sans tarder à caaquebec.com.
Je suis Stéphane Leblond de Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. L'argent ne pousse pas dans les arbres, mais on peut vous apprendre à le cultiver. Vos finances en toute confiance, c'est une expérience en toute confiance. Leblond et Associés, nous rencontrer peut tout changer.
Prêt à vendre votre propriété? Avec Yann Genois, courtier immobilier, profitez de 12 ans d'expertise, d'un service humain et de stratégie qui rapportent gros. Maximisez la valeur de votre propriété dès maintenant. Contactez Yann Genois ou visitez yanngenois.com.
Yann Genois, votre vision, votre succès immobilier.
Le Carnaval de Québec est à nos portes. Vivez l'effervescence de cet événement et logez à l'Hôtel Maurice. Plongez dans l'ambiance festive de la Grande Allée, profitez de notre confort et vivez des moments inoubliables. Réservez dès maintenant pour un séjour mémorable au cœur des festivités. Hôtel Maurice, là où la magie commence.
Transat présente un couple qui cherche comment échapper à la déprime de l'hiver.
Si on faisait du yoga chaud?
Trop chaud.
Si on allait à la piscine?
Trop froid.
Au spa?
Trop chaud, trop froid, ça me tente pas. Mais ça me tenterait peut-être de partir en voyage, par exemple.
Genre dans un endroit où il y a une piscine, un spa puis du yoga chaud?
Hey, bonne idée!
Bonne idée.
Durant le solde Adieu l'hiver de Transat, économisez jusqu'à 40% sur nos forfaits vers le sud. Visitez transat.com ou contactez votre conseiller Club Voyage. Des conditions s'appliquent. Air Transat, le voyage nous transporte.
Pendant les fêtes, tu risques d'entendre
« Pis, ça va-tu bien, ta job d'électricien? »
Tu es électricien ou mécanicien et tu aspires à mieux pour la prochaine année? Début 2025 est le moment pour façonner ta carrière à l'abbaye.
Je suis Simon, directeur de la maintenance à l'aluminerie de Bécancour. Je t'invite à venir visiter l'usine et nos équipes le 23 janvier. Réserve ta place pour cette immersion qui pourrait donner un tournant à ta carrière au emploi-abbaye.com.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs. 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Le Tonic Gym, une atmosphère unique à deux pas de l'Université Laval. En plus, le Tonic Gym a été refait à neuf. En 2025, mettez votre santé de l'avant avec les meilleurs coachs, le meilleur équipement dans le plus gros centre d'entraînement à Québec. Le Tonic Gym, la destination numéro 1 de l'entraînement à Québec.
Du 17 au 19 janvier, c'est l'événement donné au suivant par From Family Pet Food à l'animalerie chez Miaouf. Recevez une conserve de pâté pour chien ou chat et un sac de gâterie gratuit à l'achat de produits From. 30% des ventes seront redonnées en nourriture au refuge Côte-de-Beaupré.
Desjardins Volkswagen à Charlebourg offre les meilleurs prix de l'année. Obtenez un rabais de taux de 1 % pour les clients fidèles, des taux à partir de 2,99 % et des paiements à partir de seulement 79 $ par semaine pour le nouveau Taos 2025 4Motion. Visitez desjardinsvolkswagen.ca.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir.
On a le plaisir de passer la soirée avec Tony Tanous, copropriétaire des Galettes libanaises avec son frère. Puis juste avant la pause, je lui ai demandé, j'ai dit, ton père, il se mêle-tu des fois des affaires courantes du restaurant? Il dit non, mais pendant la pause, il m'a dit, quand je l'appelle, des fois, je le niaise en disant, ouais, je vais mettre tel ingrédient dans sa recette familiale à lui, juste pour lui faire pogner les nerfs. Vous voulez faire fermer le restaurant?
C'est ça, exactement. Ou le faire fuir les clients.
Ouais. Là, il travaille plus pantoute.
Écoute, c'est un grand. C'est impossible. Tu peux pas demander à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie de même. Là,
ouais, d'arrêter complètement.
Non, fait que tu sais, nous autres, notre père, il y a ma soeur qui a racheté la pâtisserie familiale.
Oui.
Puis elle, ça va de bon train, la pâtisserie de Nitanus, ça va vraiment bien. Puis elle est vraiment sharp dans ce qu'elle fait. Mais mon père, ce qu'il fait maintenant, c'est que tu sais, il est notre commissionnaire.
Okay.
Je vais te donner un exemple. On manque de tomates sur Saint-Joseph, ben. Il part avec le petit char, il va chercher les tomates sur Saint-Jean, puis il les amène sur Saint-Joseph pour dépanner le restaurant.
Puis il aime ça.
Ah, oh, lui, ça lui fait plaisir. Il prend congé quand il neige. Il rentre pas quand il neige. T'sais, en voulant dire, il y a aussi moins d'ouvrage. Mais tu sais, c'est que si on a vraiment besoin, il va nous dépanner pour des allers-retours ou des choses comme ça. Puis lui, ça lui permet de passer du temps, passer dans les restaurants.
Puis vous rendre service. Rendre service à ces gars. Il doit être content. Il doit être fier de vous autres, puis de ta soeur aussi.
Là. Ah oui, il est très, très... Ben, ça, c'est sûr qu'il est très, très fier. Là. Quand il voit où c'est rentré... Je veux dire, on a ouvert ça il y a 13 ans. On a ouvert notre sixième place, mais en réalité, notre cinquième. On a fermé Maguire entre-temps. Mais, tu sais, ça va... lui, il est content de voir ça. Puis surtout, le nouveau design, comment qu'on a amélioré. On y va vraiment progressivement.
Ouais.
On n'a jamais été... Ça, c'est le bout qui est beau de notre commerce. On s'est pas pris à la gorge. Tu sais, on s'est pas surendetté. Nous autres, on a fait un design, tu sais, c'est super beau, comme Saint-Joseph-Cartier. Là, je vous invite à aller voir si vous connaissez pas ça. Puis, on met plus d'amour dans la bouffe que dans le décor, là, on se le cachera pas. Mais on a fait de quoi de vraiment épuré et beau, là. C'est entre autres avec, à l'époque, Simon Atem et Étienne Bernier qu'on avait développé l'image de marque. Là, puis,
puis Maguire, vous avez transféré ça sur Cartier, tout simplement?
Ouais, ben pendant la pandémie, on s'est pas entendu avec le bailleur. Là.
Ouais.
Ça a été un long combat, là. Vraiment long et plate. Ça, c'est une autre affaire qu'on pourra en discuter à un moment donné. Mais ça, quand on l'a fermé, c'était pas une faillite. Là. Tu sais, les livres, ils étaient déficitaires. Puis surtout avec le contexte de la pandémie, ça n'a pas aidé. Mais à notre âge, tu sais, tu dissous pas une compagnie publicitaire quand tu es en expansion. Parce qu'en ouvrant un quartier, le déficit que j'ai fait sur l'entreprise, ben, mes gains que je vais faire sur quartier vont être ça va être des premiers dollars non imposables que je vais gagner. Fait que ça, quelque part, ça va se rééquivaloir.
Voilà.
C'est ça. Faut penser de même.
On parlait des fameux milieux de vie, là. Exemple, tu nous as donné les frères Trudel.
Ouais.
Tu sais, qui veulent faire de Place Fleur-de-Lys une plateforme centrale où les gens vont pouvoir habiter, faire du sport, aller au parc, aller au gym, aller au restaurant, aller au café, tout au même endroit, à quelques mètres de marche. Puis tu disais, c'était tout ça le futur? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que ça va être ça. Dans l'édifice, tu peux avoir des piscines, tu peux avoir des gyms, tu peux avoir, je sais pas moi, des endroits pour jouer au deck hockey. Tu peux-tu mettre des patinoires aussi au travers de ça pour l'hiver? Certainement. Je pense que ça, c'est très visionnaire comme projet. J'ai hâte de voir le produit fini. Là. J'ai vu qu'il y avait des rencontres là, pour ceux qui veulent acheter des condos là, dans le secteur de Place Fleur-de-Lys. Puis je suis très curieux de ça. Puis je pense que s'ils refont ça à l'îlot Dutchester, le projet tel qu'ils l'avaient annoncé au départ, ça serait formidable pour les gens du quartier Saint-Roch. Là.
Ben oui. Moi, c'est sûr que c'est une nouvelle que j'accueille. Puis, il y a un petit groupe là, qui s'y oppose fermement. Petit, très petit groupe. Là. On s'entend que ça fait plus que 15 jours. Ils sont même pas à 500 signataires. Je sais pas si...
Ce qui est surprenant, c'est quand tu regardes les gens qui sont à la tête de ces petits groupes-là, c'est des gens qui n'ont jamais créé quoi que ce soit.
Ben, c'est souvent des gens, tu sais, comme... j'ai eu un petit, je sais pas si tu l'as vu passer, là, j'avais un petit, moi je suis membre des groupes Montcalm et ces choses-là parce que j'habite le secteur, tu sais, j'aime ça, savoir qu'est-ce qui se passe, des petites activités de quartier et ces choses-là.
Ouais.
Puis le monsieur, tu sais, il parlait de la vue puis tout ça, la vue c'est Laurentide. Je comprends que, tu sais, si lui il habitait dans un immeuble depuis 45 ans puis qu'il y a une belle vue puis que, tu sais, dans le temps c'était 2500 habitants au kilomètre carré, puis là on arrive qu'on est proche du 13 000 habitants au kilomètre carré, ben tu sais, tu peux pas dire je vais avoir le même pattern, la même vision, tu sais, tout pareil, mais moi je fais pas de sacrifice, je veux que ça reste de même, puis tu sais, à un moment donné ça aura pas le choix. Puis on parle souvent des crises du logement puis ces choses-là. La meilleure manière de contrer une crise du logement, c'est de faire des habitations neuves. Je dis pas que les habitations neuves vont coûter 6 000, mais c'est pas normal que tu aies une vieille cochonnerie. Excusez-moi, je vais reprendre mon mot. Tu as des vieux immeubles que, tu sais, sont largement en dehors des normes puis qui coûtent des bons prix. Tu sais, ça coûte cher. Mais quand tu vas avoir un immeuble au même prix à côté qui est flambant neuf, giclé avec, comme tu dis, des gyms et des babelles de même,
ouais,
une salle commune ou peu importe, un barbecue sur le top, peu importe, ben peut-être que l'autre logement à côté, il n'y aura pas le choix de baisser son prix, là, ça ne marchera pas.
Ouais. Puis les gens vont devoir mettre de l'eau dans leur vin. Puis j'en ai jasé avec Denis dans le Petit Top plusieurs fois. Si tu veux que ton tramway fonctionne, que ton système de transport en commun fonctionne, qu'il y ait de moins en moins de gens sur la route avec leur vie,